À Douvelouic.
Ouais, zone de pêche.
Zone de pêche d'ailleurs village de Mouyonnais.
Les villages, ils sont là. Faut que je change. Yasmine, elle m'a rappelé qu'on avait dit triangle pour les villages. Et là, c'est la piste. Est-ce que tout.
Donc, je m'appelle Yasmine Safatle. Je travaille au CNRS comme ingénieur chargé de mission.
Où est-ce que nous sommes, Yasmine, aujourd'hui?
Nous sommes au village Norino, à Makuria.
Donc c'est le village d'une communauté autochtone, des Palikours. Et qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui?
Des ateliers de cartographie avec eux.
Damien Davy, je suis ingénieur de recherche au CNRS, en tant qu'anthropologue et ethnoécologue, et j'appartiens au laboratoire LEISA, en Guyane, à Cayenne.
Damien Davy, pour bien comprendre tout l'enjeu de ce que vous faites ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la question de la terre, du foncier, elle est centrale en Guyane?
La question du foncier est cruciale, est au cœur du débat en Guyane. Depuis les revendications amérindiennes, notamment depuis 1984 avec une des premières prises de parole politiques par les mouvements militants amérindiens, ce foncier fait l'objet de revendications par les peuples amérindiens, qu'on appelle aussi peuples autochtones, hein, avec qui je travaille depuis 20 ans. Et aujourd'hui, il y a près de 15 000 amérindiens qui vivent en Guyane, répartis en 6 peuples différents. Sur le littoral, les Kalinia, les Palikours et les Arawak Lokono. Dans le sud de la Guyane, donc de manière plus enclavée, il y a les Wayana, les Teko et les Wayampi.
Et là, donc est-ce qu'il n'y a pas de zone de pêche?
J'ai mis la Creek Balata. C'est tout ce qu'on a relevé.
Les peuples amérindiens se sont fait spolier historiquement leur territoire par la colonisation. La Guyane française a cette spécificité que d'une colonie en 1946, on est passé à un département français. Et le législateur, l'État français, a considéré qu'on avait affaire à des terres vacantes et sans maître. Et donc, un article de la départementalisation de 1946 spécifie que les terres vacantes et sans maître deviennent domaine de l'État. En fait, il y a une spécificité en Guyane, c'est qu'à peu près 90% du foncier appartiennent à l'État. Des grandes zones de forêt tropicale, équatoriale, du sud, tout le territoire du parc amazonien, voilà, et puis tout ce qu'on appelle le domaine forestier permanent géré par l'ONF pour la production de bois. La République française a cette spécificité que l'article 1 de la Constitution considère qu'il n'y a qu'un peuple français et que qu'on soit issu des communautés amérindiennes ou qu'on soit breton ou de la Beauce, on est français de la même manière avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Il y a des réalités, c'est que les affres de l'histoire ont fait que la Guyane, il y a des populations dites autochtones au sens de l'ONU, c'est-à-dire que c'est des populations amérindiennes qui étaient présentes avant la colonisation. Mais voilà, la Constitution française fait qu'on ne peut pas reconnaître. Par contre, le Code forestier 2005, la loi de création du parc amazonien, ont écrit des noms de peuples amérindiens. Mais on ne dit pas peuple, on va dire population ou communauté. On est tout ça sur de la sémantique. Mais ça, ça intéresse aussi l'anthropologue pour comprendre quelles sont les relations de la République française avec ces populations autochtones.
Et est-ce que depuis, il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en place concernant, par exemple, l'utilisation des terres ou concernant le foncier?
Il a fallu attendre donc, le décret ministériel de 1987 pour qu'il y ait un dispositif spécifique qui soit créé en Guyane, ce qu'on appelle la mise en place des zones de droit d'usage collectif, de concession collective et de cession collective.
En quoi ça consiste?
En fait, on reconnaît un usufruit et une spécificité de pratique de la forêt. Donc, on octroie par arrêté préfectoral, sur d'abord demande des populations autochtones et de chefs de communautés et d'associations, d'une demande d'un territoire dont la France, l'État, reste propriétaire, mais on octroie un usufruit et des pratiques spécifiques au peuple amérindien. Et donc aujourd'hui, en 2022, il y a 732 000 hectares qui sont en usufruit collectif et qui sont donc propriété de l'État, mais qui sont, donc on reconnaît des pratiques et une exclusivité d'usage sur des périmètres. Ces zones aux droits d'usage, ça bénéficie à pratiquement tous les peuples amérindiens de Guyane. Et nous, on a décidé de faire un travail avec l'ONF, c'est un programme de recherche financé par l'Europe, dans le cadre des FEDER, avec les communautés Palikours, donc un des 6 peuples amérindiens de Guyane. Et on travaille avec eux parce qu'ils ont des zones aux droits d'usage dans le domaine forestier permanent, dans la mesure où, depuis 2005, ou dans le nouveau code forestier, on reconnaît les zones aux droits d'usage comme des zones gérées par des populations traditionnelles, locales, eh bien, on est obligé de mettre en place des plans de cogestion et de prendre en compte les pratiques durables de ces populations.
Maintenant, j'avais les deux cartes, plus la carte du village.
Et après, l'idée, c'est de faire une deuxième carte qui s'est plus centrée sur le village, vu qu'il y a des pratiques derrière Kamouyéné.
C'est bon, hein, Ismaël?
Ouais, ça. Ok.
Notre projet, il a une méthodologie participative et collaborative. C'est dans la ligne que tu ne peux rien faire sur les personnes sans les inclure dans le processus. On a embauché 4 personnes, une personne de chaque village, donc une personne de Kamuyéné, Norino, Yapara et Pavar.
Concrètement, comment ça se passe, ces ateliers?
Il faut aller sur le terrain, donc il faut aller en forêt, il faut aller au fleuve, toujours avec les habitants du village ou avec le chef coutumier pour prendre des pointes au GPS.
Baptiste Loïc, j'habite au village d'Orino. On a notre petit carbet traditionnel, on fabrique de la vannerie. J'ai commencé à travailler avec l'ONF et CNRS, ça fait depuis fin juin. On a commencé à travailler déjà sur une carte. On est parti sur la piste, on a pris des points de GPS dans tous les endroits où on fait la chasse, la pêche et aussi on fait des plantations, des arrondissements. Ça me plaît beaucoup aussi parce que moi, mes parents m'ont appris aussi à beaucoup de choses sur la plantation, les plantes médicinales. On doit apprendre à entretenir ça, toujours garder les traditions que nous avons laissées. Nous, les Amérindiens, on a notre territoire, on a tous les droits de chasser ici, de faire la pêche. Par exemple, couper les feuilles de Toulouri, il faut avoir une autorisation de l'ONF. On doit payer des taxes pour couper les feuilles. Normalement, nous, on n'a pas le droit de payer ça. On coupe les feuilles, on ne demande pas, nous. Nous, on vit avec ça. C'est avec ça qu'on vit ici, à la forêt.
On se concentre sur toutes les pratiques qui sont plus liées à la forêt et le fleuve et les criques, c'est-à-dire la pêche, la chasse, les abattis, la cueillette. La cueillette des graines pour l'artisanat, parce que les palicots font beaucoup l'artisanat aux graines naturelles. Pour l'artisanat, l'arrondissement, par exemple, pour la vannerie. Après, on a la cueillette des plantes médicinales et le prélèvement de bois pour les carbets et les maisons. Et comme ça, après, on peut le mettre sur l'ordinateur et travailler sur les cartes avec les points.
Une plante de feuilles, là. Kouachi.
Kouachi.
Beaucoup, c'est quoi ça encore?
C'est des plantes flottantes, ouais.
Ouais, c'est ça. Okay.
Il y a des grandes feuilles qui poussent dans l'eau, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
On les savane tous, il y en a beaucoup. Le moukoumoukou, c'est médicinal.
Et ensuite, tous ces points GPS que vous avez collectés avec les habitants, il faut les mettre sur des cartes et c'est ce que vous faites aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Il faut mettre le symbole, avoir la légende, tout ça. Les cartes sont bilingues en français et paikwaki, c'est la langue palikur. Beaucoup de personnes parlent que le palikur et aussi le portugais. C'est aussi pour valoriser la langue palikur et pour l'éducation des enfants. Donc c'est toujours bien d'avoir du matériel en palikur. Et donc c'est aussi une façon de montrer qu'il y a une gestion du territoire et que c'est une gestion, ce qu'on appelle une gestion durable. C'est que le savoir-faire des peuples, ils sont dans l'espace anglophone, on appelle ça traditional ecological knowledge, c'est-à-dire le savoir-faire écologique traditionnel.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce projet de carte et de cartographier pour votre communauté?
C'est pour montrer notre savoir, pour montrer des choses, ce qu'on fait à la forêt, comment on doit manger aussi la forêt.
C'est-à-dire manger la forêt?
Toutes les gibiers qu'on voit, par exemple, où il y a la rivière, le petit creek. Là, il y a des fruits aussi, du koumou, du patawa, du wasai. C'est avec ça qu'on vit à la forêt.
Les populations amérindiennes ont des modes de gestion durable. Alors, elles ne sont pas écrites, elles ne sont pas théorisées, elles ne sont pas planifiées. Et c'est tout le travail, tout l'enjeu, c'est de faire reconnaître leur participation à la gestion durable de la forêt, de reconnaître des pratiques qui ne sont pas en voie de disparition, qui sont actives et présentes aujourd'hui, avec des cultures qui sont bien vivantes. Leurs cultures sont certes menacées et malmenées, mais il n'empêche que c'est des populations actives, des populations actrices de leur avenir, et elles veulent participer. Alors, il faut faire attention qu'on ne leur mette pas plus de contraintes, mais qu'on reconnaisse enfin qu'ils ont un rôle à jouer dans la gestion durable des forêts qu'ils ont toujours gérées de manière empirique, mais on reconnaît des pratiques durables et saines pour les forêts de Guyane. Avoir une reconnaissance, c'est permettre à leur village de vivre, à leur culture de s'exprimer par la pratique d'abattis, donc l'agriculture itinérante surbrûlée, par rapport à des pratiques de chasse, de pêche ou de quête traditionnelles. Et c'est aussi permettre de protéger des terres par rapport à une expansion urbaine actuelle, à des volontés de mise en place de projets industriels ou commerciaux, et aussi d'affirmer leur place en tant que peuple amérindien par rapport à l'État français, mais aussi par rapport à la Guyane et aux dirigeants politiques locaux.
Voilà. Il faut rajouter prélèvement.
On se bat aussi pour notre forêt, ce qu'on garde toujours, vu qu'il y a toujours l'État, les gouvernements seront toujours là aussi. J'aimerais bien que nous, les palicots, on puisse gérer ce terrain-là par nous-mêmes, parce que c'est pour protéger l'environnement aussi, c'est pour protéger contre les étrangers qui viennent de loin pour couper des bois et tous les bois ou chercher de l'or ici dans notre territoire. C'est pour la protection aussi.
Je pense que cette étude est importante parce que c'est la première fois en Guyane qu'il y a une collaboration importante, ça qu'on a depuis plusieurs années sur ce problème de foncier et de forêt avec les peuples autochtones et l'ONF. Mais là, c'est la première fois qu'on va faire rentrer de manière formelle la cogestion durable des forêts avec des peuples amérindiens de Guyane. Donc pour la Guyane et la France, ça, on continue dans la reconnaissance, peut-être timide, mais qui n'empêche, est de plus en plus croissante, des spécificités des peuples amérindiens et leur rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité et dans le maintien d'une gestion durable des forêts.
J'espère que tout le monde sera présent avec nous, les peuples amérindiens de Guyane seront tous avec nous pour travailler et de venir nous soutenir aussi avec ce projet-là. C'est pas pour le village, mais c'est pour tous les peuples amérindiens de Guyane.
Ces revendications foncières sont de plus en plus prégnantes, notamment depuis les mouvements sociaux de 2017, où il y a, dans les accords de Guyane, la promesse par l'État français d'une rétrocession de 400 000 hectares, donc là, une propriété pleine et entière au peuple autochtone de Guyane, au peuple amérindien. Les démarches juridiques, politiques sont en cours. Ça va être pas facile de faire les zonages, mais tout ça, c'est un travail en cours qu'on mène avec le Grand Conseil coutumier, les chercheurs concernés comme le CNRS et moi-même, la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. On est acteurs pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, pour avancer dans la reconnaissance de ces territoires amérindiens.